Bonjour à tous. Et c'est vrai que de belle façon, on peut se mettre dans la disposition aussi d'entendre la parole. Quand on vient avec un cœur qui adore, avec un cœur qui est reconnaissant, de voir toute l'œuvre que Dieu fait autour de nous et aussi fait en nous. Juste, tu peux, Rémi, afficher le... Et ce matin, moi, ce qui m'a réjoui, c'est déjà de me retrouver ce matin avec vous, avec mes frères et sœurs, en Christ, et puis de me retrouver aussi avec un peu la lumière du soleil. Cela fait, je trouve que cet hiver est particulièrement long et difficile. Le manque de la lumière du soleil me manque, me pèse. Alors c'est vrai, je suis un peu du sud, peut-être je suis plus sensible, mais je pense à toi, Daniel. À toi, Lydia. Et je ne sais pas comment vous vivez ça, mais en tous les cas, je trouve que c'est dur. Et ça m'a donné justement envie de méditer sur le sujet de notre besoin de lumière et de réfléchir, bien sûr, de notre dépendance à la lumière divine. Et il me semble que c'est clair qu'on peut affirmer que sans lumière, toute vie n'aurait pas pu voir le jour. Et sans elle, cette vie ne peut pas non plus se développer. Ça, c'est ce qu'on peut constater autour de nous quand on est agriculteur ou qu'on est jardinier. Alors, pour découvrir le contexte de la lumière dans son ensemble, il est indispensable avant tout de se replonger à l'origine de la création et de se rappeler la configuration initiale de notre monde, telle que notre Dieu créateur l'envisageait. Alors, je fais appel un peu à vos souvenirs, mais... Je sais que vous n'étiez pas là, mais je vous rappelle, au commencement était la parole. Et à l'origine donc, la terre est créée informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme ça que Dieu a créé, premier créa que Dieu a fait, c'est ça. Alors je ne sais pas si vous voyez un peu, vous imaginez ça, mais je trouve que moi c'est un étrange monde. Qui est sans lumière, semble-t-il, où il y aurait finalement un amalgame, où il y avait un amalgame surprenant entre les ténèbres et l'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus. Je dis amalgame. Et quand je lis simplement ce récit, moi je suis surpris parce que Dieu fait en premier. Il fait une terre informe et vide. Alors je rappelle quatre choses. De Dieu, que la parole nous dit de ce que Dieu est. On a vu quand on a fait la série sur Dieu, on sait que Dieu est lumière, on sait que Dieu est esprit, on sait que Dieu est un feu consumant, et on sait que Dieu est amour. Donc, le sujet qui m'importe ce matin, c'est Dieu est lumière. Et donc, si Dieu est lumière, comment il est possible qu'il soit ténèbres, c'est évident, ce n'est pas possible. Pourtant, nous voyons bien qu'il y a des ténèbres dès le début de la création. Il est bien dit que Dieu crée la terre informe et vide. Surprenant, parce que nous l'avons vu aussi lorsque nous avons abordé les attributs de Dieu, Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Alors comment peut-il créer quelque chose de vide? C'est-à-dire quelque chose où lui-même n'est pas là. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que Dieu crée le vide. Dieu crée le manque. En quelque sorte, Dieu crée quelque chose qui n'est pas lui. Alors, pour créer quelque chose qui n'est pas lui, comment il peut faire? Il n'a finalement pas d'autre choix que de se retirer, de partir. Et la conséquence du retrait de Dieu, c'est-à-dire de l'absence de lumière, est qu'il reste finalement les ténèbres. Et dans ce désordre ambiant, je rappelle, qui a été pourtant créé par Dieu, Dieu fait une deuxième chose. Il parle. C'est la première fois que Dieu parle. Dieu dit que la lumière soit. Et puis, pouf, la lumière fut. Gloire à Dieu. Ici, Dieu rompt le silence. Dieu parle et la chose arrive. Ainsi, après avoir créé, Dieu met de l'ordre. Et dès que la lumière est parlée, dès que la parole est prononcée, la lumière arrive. Donc ce que nous voyons là, c'est que la parole précède la lumière. Et c'est cette pensée que nous retrouvons au tout début de l'évangile. Donc Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Alors j'ai affirmé au tout début que sans lumière, toute vie n'aurait pas pu voir le jour. Et ça, c'est justement notre perception humaine des choses. Perception humaine de la vie que nous avons. Tandis qu'ici, si vous lisez bien, c'est le contraire. Et conformément au récit de la création, Jean affirme « La vie est la lumière des hommes. » C'est donc la parole de vie qui est la lumière. En clair, la lumière est là à cause de la parole même de Dieu. Donc, si nous voulons voir la lumière, trouver la lumière, où on va ? On va à la Bible, on va à la source de la vie. Et ce que je remarque par ce récit aussi, c'est que si Dieu n'avait pas parlé, la création ne serait pas ce qu'elle est. Si Dieu n'avait pas parlé, la terre serait restée finalement informe et vide. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le constat pratique dans ma vie. Que serait devenue ma vie si moi-même je n'avais pas parlé ? Quelle serait ma vie si je n'avais pas demandé à Jésus, qui est la lumière du monde, de venir éclairer ma vie ? Ma vie serait informe et vide. Car orpheline de la lumière véritable. Combien il y en a autour de nous ? Et ce soir, ce matin, je ne voudrais pas qu'il y en ait ici qui n'aient pas parlé. Combien il y en a autour de nous qui ne parlent pas à Dieu, qui n'ont pas ouvert leur cœur, qui restent finalement ce chaos interne, ce monde dans leur cœur qui reste informe et vide. Romains 10:10, tout en rappelant que l'on croit avec le cœur, rappelle aussi l'importance de la confession de la bouche pour parvenir au salut. Nous rappelons quelquefois l'importance de nos propres paroles. Mais ouvrir notre bouche, ce n'est pas forcément une simple formalité. Il y a des paroles que nous prononçons et que nous voulons comme des bénédictions, et qui le sont. Et d'autres que nous prononçons sans trop y porter attention et qui sont des malédictions. Quelques exemples. Quand nous disons qu'il n'y a plus d'espoir, que tout est foutu, que ce n'est pas facile, que nous n'avons pas l'esprit, nous parlons et la chose arrive. Tiens, tiens. Voilà pourquoi la prière, on le rappelle, on le martèle, la prière est une arme puissante. Car dès le moment où nous nous adressons à notre Père, tout est mis en œuvre pour que son intervention corresponde à la situation. Alors je veux continuer le récit de la création, car heureusement la création ne s'arrête pas là. Dieu fait un premier constat. Il vit que la lumière était bonne. C'est toujours dans la Genèse, hein ? Et ça c'est intéressant, regardez les verbes. Dès que la parole est là, donc dès que Dieu parle, Dieu, finalement, peut commencer à voir. Et fort de ce constat, Dieu décide de séparer donc la lumière d'avec les ténèbres. Et ça, afin d'organiser un ordre entre la nuit, un principe d'ordre entre la nuit et le jour. Ainsi, Dieu organise un principe basé sur la présence de Dieu, sa lumière, et son absence, les ténèbres. Alors, nous pouvons continuer à faire un parallèle avec notre propre salut, car nous aussi, dès que la lumière de Christ vient éclairer nos vies, nous commençons enfin à voir. Cette lumière divine met en évidence ce qui est obscur dans nos vies, afin qu'il y ait une séparation claire, visible, qui s'opère entre la lumière et les ténèbres de nos vies. Et le but de cette séparation, c'est qu'ainsi exposée à la véritable lumière, cette nouvelle vie mette de l'ordre et qu'elle produise des fruits. C'est ce qui s'est passé à la création. À partir de cette lumière, la vie a pu commencer à se développer, elle s'est explosée. Et jusqu'à ce que finalement le soleil soit créé plus tard, il était créé spécifiquement, et que le rythme entre le jour et la nuit organise nos vies depuis finalement la création de l'homme et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ainsi, la lumière et le soleil sont bien deux créations spécifiques et nous ressentons bien les effets du soleil et nous savons qu'il participe aussi à notre bonne santé physique et mentale. Mais comment pouvons-nous ressentir cette lumière particulière rayonnée par notre Dieu? Dans l'Ancien Testament, Moïse a été témoin directement de la manifestation de la lumière de Dieu. Donc que ce soit dans le buisson ardent ou sur le mont Sinaï, ou même son visage rayonnait la gloire de Dieu. Dans le désert, cette lumière éclairée dirigeait le peuple. Plus tard, Ésaïe nous dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, sur la montagne de la Transfiguration, le visage de Jésus resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et un peu plus tard, c'est encore la lumière éclatante qui vient du ciel et qui fait tomber Saul de Tarse par terre pour le détourner de son chemin. Et enfin, dans l'Apocalypse, il est dit que nous aurons tous l'occasion d'être éclairés de façon continuelle par cette lumière particulière, sans que nous ayons besoin de lampe. Lorsque nous serons tous réunis autour de notre Sauveur. Et toute cette lumière-là, cette même lumière, c'est celle qui est venue éclairer maintenant tout homme. Jean 1, verset 9 nous dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Alors, au-delà des aspects bénéfiques que nous ressentons du point de vue physique et visible de la lumière du soleil, quel est le rôle de cette lumière véritable? Alors, si vous examinez un peu dans la Bible, dans quel contexte l'homme lumière est employé, vous serez surpris par le nombre de fois où il est associé au mot ténèbres. Et je me suis amusé à les compter. Il y a 194 fois le mot lumière qui est employé et 54 fois il est associé au mot ténèbres. Alors je viens de citer Ésaïe tout à l'heure, 9, verset 2, et là c'était aussi le cas dans ce verset. Ainsi la lumière est très souvent en opposition aux ténèbres, et ce n'est pas étonnant puisque depuis la création, Dieu les a séparés pour établir un ordre nécessaire à l'équilibre de notre monde. Entre-temps, l'homme s'est développé, a cherché son indépendance, et cet ordre des choses a été grandement contrarié. En effet, alors que Dieu vit que la lumière était bonne, Jean 3, verset 19 nous dit « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Donc nous retrouvons cette même opposition entre la lumière et les ténèbres et le bien et le mal. C'est pourquoi, comme Dieu vit que la lumière était bonne, nous aussi retenons ce qui est bon. Il y a toujours eu à travers les temps cette tendance à faire un doux mélange des genres un peu contraires au plan de Dieu. Il y a même une malédiction qui a été prononcée par Ésaïe à ce sujet, Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. D'où vient cette doctrine? Alors, il ne faut pas chercher bien loin. Paul parle de doctrine de démons. Et cette doctrine a pour but d'enlever toutes les limites et surtout la séparation que Dieu a mise entre ces deux mondes. Alors, il y a justement ce symbole du yin et du yang dont de plus en plus de personnes se réclament pour montrer leur tolérance, je dirais même leurs indulgences à toute forme d'excès. Ce symbole représente un cercle dans lequel il y a deux virgules qui sont imbriquées, donc l'une blanche et l'autre noire. Ainsi, le centre de ce cercle, il n'est ni blanc ni noir. Et pour insister encore plus sur le fait qu'il n'y a pas de mal sans le bien et pas de bien sans le mal, il y a encore ces deux petits cercles, le noir dans la partie blanche et inversement. Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus gagné par cette doctrine. Tandis que nous, nous nous réclamons de la seule doctrine de Christ. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. En étant désormais des enfants de lumière, nous sommes engagés dans un processus de sanctification sans faille. Notre besoin de lumière est vital. Et il est intéressant de voir, à la lumière de la parole, de quelle façon nous ressentons ce besoin de lumière. La première chose que Dieu fait, que fait la lumière plutôt quand elle brille, c'est que de suite elle prend le dessus sur l'obscurité. Il suffit d'une petite flamme dans la nuit pour être éclairée ou pour qu'elle soit vue à des kilomètres. Tandis que la réciproque n'est pas vraie. C'est cette œuvre que fait la lumière dans nos cœurs. Éphésiens 5, verset 13 nous dit « Tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. » Cette lumière dans nos vies va révéler toutes les choses dont nous ne sommes pas très fiers, que nous avons enfouies au plus profond de nous et qui sont des obstacles finalement à notre bénédiction. Il y a bien des choses que nous faisons en secret, des choses que nous voulons cacher à Dieu ou même à nos frères. Et même des fois à nous-mêmes, nous nous mentons. Il y a bien des choses que nous ne voulons pas dire, et forcément, puisque nous n'en parlons pas, ben, nous ne les voyons pas non plus. Dès le moment où nous demandons à Dieu, il vient faire sa demeure dans notre cœur. Nos sentiments et nos pensées sont révélés. Et jusqu'à pénétrer entre l'âme et l'esprit, et les jointures et moelles, nous dit la parole. Le miracle du salut active une dynamique qui n'a pas d'autre alternative que de révéler ce qui est pour nous un obstacle sur le chemin qui nous mène à la perfection. Et le miracle du salut ne s'arrête pas là. Au-delà de tout ce que la lumière révèle dans nos vies, il arrive un moment, et cela c'est même souhaité par notre Seigneur, que cette lumière devienne finalement notre lumière, pour qu'à son tour, elle brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, nous dit Matthieu 5, verset 16. Où en est votre lumière? La mettez-vous sous le boisseau pour ne pas qu'elle se remarque trop? Oui, la parole nous interpelle. Elle nous encourage à réaliser que notre visage reflète la gloire du Seigneur. Alors que oui, c'est vrai, nous portons ce trésor dans des vases de terre. 2 Corinthiens 4, verset 6 nous dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Et verset 7 « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Mais remarquez comme c'est formidable ça. Et c'est ce que fait Dieu une fois de plus. Il fait ça mais incessamment pour nous, sa lumière brille dans nos cœurs. Quel miracle de voir ainsi des vases de terre refléter la gloire du Seigneur. Moi, je suis plutôt habitué à voir des miroirs refléter la lumière ou autre chose, mais un vase en terre de surcroît, ce n'est pas forcément sa vocation. La vocation d'un vase, c'est d'être rempli. Et justement, ici, c'est rempli du Saint-Esprit. Pour que lui, à son tour, fasse resplendir notre lumière. Et nous sommes donc destinés, mais destinés, je l'insiste là-dessus, à marcher dans cette lumière, à fuir tout ce qui se fait dans les ténèbres. Marcher ou demeurer dans la lumière, comme nous y sommes invités, implique que nous renonçons au mode de fonctionnement que nous pouvons avoir dans nos relations humaines normales. Marcher dans la lumière, c'est arriver à voir et à entrer dans ce qui réjouit notre Seigneur. C'est continuer en pleine confiance avec lui le chemin sur lequel nous sommes engagés. C'est rendre grâce à notre Père pour toutes les bénédictions et le travail qu'il fait dans nos vies et dans notre assemblée aussi. Et ceci malgré les difficultés que l'on vit. Demeurer dans les ténèbres, c'est voir ce qui ne va pas. C'est faire les choses dans le secret. C'est voir seulement le chaos. C'est se laisser décourager par la dureté du cœur de l'homme. C'est refuser de laisser porter par notre Seigneur Tout-Puissant un fardeau trop lourd pour nous. Oui, ce sont deux dispositions de cœur totalement différentes. Elles sont opposées. Et pourtant, elles caractérisent l'attitude de tout vase de terre tel que nous sommes. Alors oui, moi je désire que mon cœur soit bien disposé. Je désire que mon Seigneur, par sa lumière, il illumine les yeux de mon cœur pour que je voie ce que lui voit et aussi accomplit. Hasard avec un grand D. Ce matin, lisant le calendrier, je passe sur celui qui a la méditation quotidienne. C'est justement ce verset d'Éphésiens qui est cité. Avec cet exemple d'Agar dans le désert. Et il y a ce moment où Dieu lui ouvre les yeux pour qu'elle voie le puits qui est à proximité. Alors qu'elle et son fils Ismaël sont en train de mourir de soif. C'était fini. Et Agar n'avait pas une grande expérience de la puissance de Dieu. Au contraire, elle aurait pu être découragée, chassée qu'elle a été. Dieu a ouvert les yeux de la foi pour qu'elle voie le puits à proximité, pour qu'elle puisse donner à boire à Ismaël son fils et à elle-même. Alors oui, je veux vous encourager tout ce matin. Que voyez-vous? Je dirais même plus, que prophétisez-vous? Est-ce que vous voyez uniquement ce qui est informé vide, comme au début de la création? Mais voyez-vous, comme notre Seigneur l'illumine, les œuvres qu'il a préparées à l'avance pour que nous les pratiquions? Vivre dans la lumière, ce n'est pas se prétendre moralement parfait, c'est véritablement être témoin de l'œuvre de Dieu et non pas être critique envers celle des hommes. Vivre dans la lumière, c'est vivre conscient que Dieu est là. Dieu est là et c'est cultiver notre communion avec lui et avec nos frères et sœurs. On va partager la Sainte Cène tout à l'heure, ben maintenant. Et encore un dernier verset pour l'introduire. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et la Sainte Cène, c'est le moment de communion par excellence, où nous réalisons cette dépendance, notre dépendance à Christ, et notre dépendance les uns des autres. Notre communion mutuelle à Dieu n'est pas d'abord du domaine du ressenti. Notre communion avec Dieu, et même avec nos frères et sœurs, ne veut pas se réduire à un sentiment, à une impression de communion, où nous serions plus en communion avec certains et moins avec d'autres. Non, notre communion mutuelle avec Dieu existe. Et elle est une vérité avant d'être un sentiment. Et la lumière est là pour nous révéler cette communion et nous éclairer dans nos relations fraternelles. Oui, je vous entends, et moi je suis le premier à constater que c'est pas toujours tout beau, nos relations. Si on lit plus loin dans l'évangile, dans l'Épître de Jean, il est même dit qu'on ne peut pas demeurer dans la lumière si on n'aime pas, si on hait son frère. Mais c'est tellement évident. Si on ne se dit pas les choses. Et moi, je trouve que la Sainte Cène, c'est le parfait lieu où Christ lui-même s'est présenté, où on se souvient de ce que lui, par son geste, par son sacrifice, il a accompli pour nous. Juste deux versets qui nous parlent justement de cette communion. Et ça va loin quand on lit. Moi, je ne veux pas forcément interpréter, mais lire. 1 Corinthiens 10, verset 16 nous dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un seul et même pain. » Ben oui, nous sommes en communion. Nous sommes en communion avec notre Seigneur. Nous sommes en communion avec Dieu. Alors comment ne pas être en communion aussi les uns avec les autres? Ça, c'est une réalité et moi, je vous propose de réaliser ce qu'a fait notre Seigneur et Sauveur, de réaliser que lui qui était lumière il est allé dans les ténèbres. Nous, on ne connaîtra jamais les ténèbres. Les ténèbres telles que lui l'a connues, il ne connaîtra, on ne les connaîtra jamais. Et moi, je trouve que c'est beau de se souvenir ça. Lui, il a accepté de connaître l'absence de Dieu. Pendant ces moments où il était totalement abandonné de Dieu, Dieu n'était plus là. La lumière n'était plus là, il n'avait que les ténèbres. Et il a accepté de vivre cela à notre place. Il a accepté de mettre en veilleuse, finalement, toute sa gloire, sa lumière qu'il avait pour accepter et être soumis à ce qu'il devait vivre. Et moi, ça me touche. Et ce qui est au-delà de tout miracle, c'est que de toute façon, cette lumière, il ne pouvait pas la garder plus de... Cette absence de lumière, il ne pouvait pas la garder plus de 3 jours. Il a fallu que ça explose, il a fallu qu'il ressuscite. Et nous, on est au bénéfice de cette résurrection. On est au bénéfice de cette lumière qui a ébloui tout le monde, qui a fait trembler la terre. Et moi, je vous propose de nous souvenir vraiment de ce sacrifice et dans cet esprit aussi d'unité, de fait qu'on ait ce corps unique et que nous sommes en communion vraiment les uns avec les autres. Donc je demanderai à Uli et à Nathan de venir prier pour ce pain et ce vin, en souvenir de ce qu'a fait notre Sauveur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus que tu es mort à notre place, que tu as fait cette œuvre pour nous sauver. Merci aussi pour ce repas que tu nous as donné comme signe pour nous rappeler que tu as fait tout pour nous. Amen.
Seigneur, merci pour ce sang qui a coulé de ce corps massacré pour mes péchés, parce que je suis un pécheur. Je te demande pardon de ne pas laisser cette lumière, ta lumière, sortir de moi, Seigneur. Fais de moi ton outil. Amen.
Je terminerai par la prière, ce moment. Oui, notre Père, merci parce que tu nous as éclairés, tu as envoyé cette lumière pour éclairer tout homme. Tu n'as laissé aucun à l'écart. Et on veut te prier, c'est vrai, parce que te rendre grâce aussi déjà de ce que tu as éclairé nos vies, de ce que tu as fait dans chacun et que tu continues à faire dans chacune de nos cœurs. Et on sait qu'il est tortueux, trompeur par-dessus tout. Tu sais comment révéler les choses qui dysfonctionnent. Et nous comprenons aussi que pour que tu agisses, nous avons besoin de parler, nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs. Et merci pour la parole, merci pour la prière que tu nous as donnée, parce que nous pouvons ainsi nous approcher de toi et ouvrir notre cœur. Et on te prie pour que tu fasses en chacun de nous cette œuvre. Par ton Saint-Esprit, que tu fasses cette œuvre en nous. Et c'est vrai, nous nous mettons là, sous ton regard, sous ta lumière. Nous savons qu'il y a des choses pas forcément belles qui vont ressortir, mais on veut te faire confiance, parce que toi, tu nous aimes, toi, tu ne nous juges pas. Et on veut se trouver ainsi pour avancer, pour grandir, pour évoluer, comme toi, tu le désires pour chacun de nous. Tu vois nos vies et tu vois le plan que tu as pour chacun de nous. Et c'est vrai, ce matin, tu nous dis, patiente, tu nous dis, loue le Seigneur, vois cette œuvre qu'il fait dans ta vie. Et merci pour ces paroles, parce qu'elles nous encouragent. Et sois béni, c'est vrai, par nos vies. Sois béni aussi par notre communion fraternelle. Sois loué et honoré encore par ton Église ici à Prévesin. Sois loué et honoré parce que, oui, tu nous aimes, tu prends soin de nous, que nous soyons des aînés, que ce soit aussi les bébés. Prends soin de chacun de nous, sois en bénédiction pour chacun. Et c'est au nom du Seigneur que nous te prions. Amen. Philippe, je te laisse pour les annonces.
Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Avant de partager les annonces de la semaine, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent, qui sont peut-être de passage. J'aimerais dire que ça fait du bien de vous avoir parmi nous. Je vois Bernard et son épouse. D'autres visages peut-être qui... Oui, tu veux dire quelque chose?
Oui, j'ai aperçu Salomé tout à l'heure. Salut Jean aussi. Juste, ils sont de passage parce qu'ils vont en Autriche, là, d'après ce que j'ai compris. Mais Jean et Salomé Fourmont, on ne les connaît pas. Enfin, moi, je les connais, mais indirectement. C'est avec eux qu'on a rénové en partie le chauffage de la Barme. Voilà. C'est lui qui est responsable des travaux du chalet GBU à la Barme. Voilà. Voilà. Donc, Raymond, tu pourras te demander si l'insert fonctionne.
C'est vrai que c'est toujours une joie d'avoir d'autres personnes qui partagent aussi le moment de culte avec nous. Alors, les annonces de la semaine. Demain soir, une rencontre de la commission de travaux, la suite. Merci de penser à cette commission, de prier aussi pour cela. Mardi, il y a donc l'étude biblique pour les aînés à 14h30. Et puis, le soir, la réunion de prière de l'église, donc ici, au sous-sol. Mercredi, c'était prévu chorale. Alors, c'est les vacances, il y aura beaucoup d'absents. On ne sait pas encore si la chorale, est-ce que ça vaut la peine de la maintenir. Donc, ceux qui font partie de la chorale, regardez bien vos emails avant de venir mercredi soir. On ne sait jamais. Samedi, groupe de jeunes. Dimanche, thé café à 9h30. Venez nombreux partager ce moment fort sympathique et utile. Et puis le culte à 10h30. Hein? Oui.
Pourquoi est-ce que toutes les reprenées, madame, avant, c'est plutôt un mardi au lieu de jeudi,
alors c'est juste, c'est la première fois qu'avec ce nouveau système, on en a parlé à l'Assemblée Générale. Anciennement, les activités se faisaient principalement le mardi, ensuite elles ont été décalées au jeudi, certaines sont restées le mardi. On s'est dit que c'est quand même plus simple d'avoir une seule rencontre, une seule date phare dans la semaine pour que les gens s'y retrouvent en fait. Parce que ce n'est pas évident, si on a des invitations et tout, on les met le mardi, on les met le jeudi, on ne sait plus. Donc maintenant les activités sont le mardi, donc les jeudis sont libres. Invitez qui vous voulez le jeudi, profitez-en, invitons-nous les uns les autres, c'est aussi voilà, c'est un petit changement. Pour la suite, donc les dates un petit peu plus en avant. Jeudi 14 mars, Femme Club va se joindre à Rencontre de Femme à Femme qui fait partie de Porte Ouverte. Donc c'est ce petit feuillet d'invitation. Donc il y aura une rencontre jeudi 14 mars donc à 19h30 le soir avec un repas partagé. Moi je vous invite les femmes... Déjà, celles qui font partie de Femme Club, bien sûr, je pense que vous allez participer. Celles peut-être qui ne peuvent pas y aller, qui ont peut-être de la peine à se libérer le lundi après-midi, là, c'est en soirée. Il y aura des intervenantes africaines. Prenez contact avec Lydie pour les inscriptions. C'est important de s'inscrire vu qu'il y a un repas. Il y a quand même une organisation derrière. Voilà. Ensuite, je vous rappelle donc le culte en commun de la pastorale qui aura lieu le 17 mars à Échenevé, à la salle de la Chenaille. Concernant les santé des uns et des autres, on peut penser à Nelly de la Tate, qui va se faire opérer une petite opération, mais c'est quand même une opération, puis il y a le poids des années. Donc c'est important de penser à elle dans la prière, vraiment de la soutenir. René, tu peux lui transmettre nos meilleurs messages. C'est vrai qu'on veut, penser. Donc, elle se fait opérer d'une petite opération en ambulatoire vendredi. Des nouvelles de Mélanie. Il y a eu un cyclone qui vient de se finir, qui est passé le 22, donc avant-hier, dans le sud-ouest du pays de Madagascar. Et donc, Mélanie va partir demain. Donc, une première étape de reconnaissance. Évidemment, dans ces situations, il y a toujours peu d'informations parce que les moyens de communication sont généralement fortement endommagés. Mais on peut déjà bien penser à elle, penser à son travail, penser à l'équipe aussi qui va l'accompagner pour ce travail de reconnaissance et ensuite d'aide qui sera apportée. S'il n'y a pas d'autre chose à partager, je vous invite à vous lever. Je vais vous lire quelques versets. C'est drôle, c'est des versets que j'avais à cœur. Et ce sont des versets qui nous parlent aussi de la lumière. Pierre nous a beaucoup parlé de la lumière. Dans Apocalypse 22, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, donc dans la Nouvelle Jérusalem. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Que la grâce du Seigneur Jésus vous accompagne. Amen.